Vous écoutez
RMC.
Bonsoir à tous, et oui, une victoire cric-crac, comme dirait Laurent Blanc, pour l'OL ce soir. On va en parler dans l'after Lyon-Bas-Lille 1-0. L'after est là jusqu'à minuit, comme tout le soir en direct sur RMC, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout va. Stéphane Guy est là, salut Stéphane.
Citoyen, bonsoir.
Et Daniel Riolo, salut Daniel.
Et bonsoir les amis.
1-0 pour Lyon face à Lille. Les autres résultats du jour, évidemment, on va également en parler. Monaco qui gagne, Rennes qui gagne, Nice qui se réveille à Lorient. Limite une surprise. On en parlera aussi, plus les autres résultats de cette soirée. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets, pour tous ces matchs. Le hashtag RMC Live est là, bien sûr, sur Twitter. Et puis Direct Studio, notre messagerie à nous sur les applis RMC et RMC Sport qui vous permet de nous envoyer des messages. On a également du rugby et de la F1, les gars, dernier tour au Grand Prix du Mexique. Jean-Luc Roy est là, bien sûr. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Gilbert, bonjour à tous. Effectivement, dernier tour pour Max Verstappen, en mesure peut-être d'établir un nouveau record dans l'histoire de la Formule 1, avec 14 victoires en une seule saison de Grand Prix. Il battrait ainsi Michael Schumacher et Sébastien Vettel. Il avait égalé ce score avec 13 victoires, et voilà maintenant la victoire de Max Verstappen. Faut-il rappeler qu'il est titré champion du monde pour la deuxième fois, avec une avance de 14 secondes sur Lewis Hamilton, qui va en terminer maintenant avec la Mercedes. On rappelle les stratégies différentes, puisque on était parti en pneumatique soft du côté des Red Bull à moteur Honda, et on a changé au 25e tour pour monter les pneumatiques médium. A priori un pari impossible, mais qui a été relevé brillamment par Verstappen, qui a donc réussi à ménager ses pneumatiques au détriment des Mercedes. D'ailleurs Hamilton tout à l'heure a fait part de ce constat auprès de son ingénieur en disant bah oui, ils vont réussir à terminer avec les médiums avec un seul arrêt, contrairement également au vision de Pirelli qui tablait sur deux arrêts dans ce Grand Prix. Le troisième, eh bien, c'est Sergio Pérez qui est parvenu à prendre l'avantage sur George Russell, et puis George Russell qui est actuellement en train d'essayer d'établir le meilleur tour en course. Pourquoi ? Parce que ça rapporte évidemment un point au championnat du monde, et il enlèverait ainsi ce point à Sergio Pérez qui est pour le moment l'homme le plus rapide. Donc premier Verstappen, deuxième Hamilton, troisième Pérez, quatrième Russell. Russell est en mesure de le battre, il est maintenant dans le troisième secteur, il a établi les deux meilleurs temps absolus dans le premier et dans le deuxième secteur. Donc a priori le point du tour le plus rapide va revenir à Russell. Le cinquième, eh bien, c'est Carlos Sainz, très très loin, à 57 secondes du vainqueur. Les Ferrari absolument pas dans le coup au Mexique. Le sixième, c'est l'autre Ferrari, celle de Charles Leclerc. Septième, Daniel Ricciardo avec la première des McLaren. Huitième, Esteban Ocon avec l'Alpine rescapée, puisqu'on a vu tout à l'heure Fernando Alonso abandonné sur une casse moteur. Le neuvième, c'est Lando Norris. Et le dixième, dernier point, c'est Valtteri Bottas avec l'Alfa Romeo, devant malheureusement Pierre Gasly. Enfin, Pierre Gasly est remonté 11e, mais il n'aura pas le point de la 10e place. Voilà pour ce Grand Prix du Mexique, et je le répète, Verstappen établit un nouveau record, 14 victoires en une saison de Formule 1. Il a battu Michael Schumacher et Sébastien Vettel.
Merci Jean-Luc. On te retrouve bientôt.
Il reste combien de Grand Prix, Jean-Luc ?
Alors, il reste deux Grands Prix. Maintenant, le Grand Prix du Brésil dans deux semaines, et ensuite le Grand Prix d'Abu Dhabi qui clora la saison à la fin novembre.
Il peut le mettre haut le record.
Il peut le mettre encore plus haut le record, absolument.
Il est très fort. Il n'y a plus que ça qui compte, parce que le reste.
Il n'y a plus que ça qui compte. Alors, la bataille, attends, là, j'ai pas eu le temps de faire le calcul, mais la bataille pour la deuxième place, on va le faire. Et qui est hyper serré entre Leclerc et Pérez. Là, évidemment, c'est à l'avantage de Pérez. Donc, Pérez repasse en deuxième position. Puis, il y a une autre bagarre derrière pour la quatrième place entre Russell et Sainz. Là aussi, Russell, il termine devant, ça ne doit pas être assez.
Vice-champion, j'en prends deux, non ?
Pas eux. Oui, non, quand même pas. Non, c'est quand même. Oh, c'est. Et puis, il y a un enjeu aussi, c'est que Red Bull n'a jamais terminé 1 et 2 du championnat, malgré tous les 4 titres de Vettel.
Que tu nous vends là.
Moi, j'ai une question sur les stats, justement, sur les data, à l'heure de la data. Ouais. Comment peut y avoir encore autant d'incertitudes sur l'usure des pneus ? C'est pas un truc qui est scientifique, ça, l'usure des pneus ?
Bah écoute, ça devrait l'être, effectivement, mais c'est vrai qu'après, ça dépend de pas mal de choses, en l'occurrence les réglages des monoplaces, malgré tout, et le style de pilotage des pilotes, c'est le cas de le dire. Mais là, je suis assez bluffé par le nombre de tours. Encore une fois, ils ont changé au 25e et 24e tour pour Pérez, donc ils ont emmené ça jusqu'au 71e, c'est absolument énorme, et c'est au-delà de ce que Pirelli avait prévu. Donc après, ça suppose un ménagement, alors que du côté
c'est le Qatar, non ? C'est le Qatar.
Mais surtout, vous savez que maintenant, c'est plus de neige obligatoire pour tout le monde.
Ça va venir, oui, mais heureusement, pas encore en Formule 1. Bon, enfin, c'est vrai qu'il y a une gestion qui est effectivement, qui peut parfois surprendre. Et pour honnêtement, alors, moi, j'avais toutes les prévisions, là, qui étaient établies. On tablait tous sur deux arrêts au stand. Bah non, ils n'en ont fait qu'un. Il y en a un qui en a fait deux, c'est Russell, mais encore une fois, c'était parce qu'il voulait monter des softs et qu'il a battu le record du tour juste à la fin.
Merci Jean-Luc.
C'est l'altitude. Voilà. C'est l'altitude.
2240
pètes. Ah,
oui.
Il y a un truc sûr, c'est que les pneus de la moto de Jean-Luc sont prêts. Ça commence à chauffer là.
Nickel.
Dans 5 minutes, il est dehors. Salut Jean-Luc, bonne soirée. À très vite.
À bientôt, merci.
Le rugby, c'est UBB Toulon. Nicolas Paul Orsi, bonsoir.
Salut l'after, salut à tous. Il reste moins de 8 minutes dans ce match et ce sont les Toulonnais qui sont en train de faire un gros coup puisqu'ils mènent de 2 points sur la pelouse de Chaban-Delmas. 26-24 ballons pour l'UBB sur les 40 des Toulonnais. Mais globalement, ce match, il est dominé par Toulon. Il reste moins de 8 minutes dans cette partie. 2 points d'avance pour Toulon.
Très bien, tiens, ça me fait penser que Nicolas Paul Orsi a lancé le premier podcast de paddle de l'histoire.
Eh oui.
Oui, j'ai vu ça, étonnant.
Pourquoi étonnant?
Bon, c'est du paddle, quoi.
Bah, tu joues Daniel, toi.
Et vous, comment il est? Regardez quand
le mépris.
Là-haut, exactement.
C'est fou. Ça, c'est les tennisman, ça.
Non, c'est justement un sport pour les tennisman ratés. Ou pour les tennisman à la retraite.
Pour les footballeurs.
Mais en fait. c'est un sport de divertissement, c'est un petit divertissement.
Ah, je suis pas d'accord avec toi, Daniel. Quand tu commences à jouer vraiment au padel, c'est vraiment physique.
Moi, j'ai appris que certains peuvent payer des bons joueurs pour jouer avec eux pour monter dans les classements.
Ouais, c'est vrai, ça. C'est un peu une guignolade.
Le mec qui nous parle de poker comme un sport, qui nous dit ça ce soir sur la
lancée. Je dis pas que c'est un sport le poker. Je dis que c'est un jeu extraordinaire, un jeu d'intelligence, de stratégie, de tout ce que tu veux. Mais je dis pas que c'est un sport. D'accord. Non, je sais pas que c'est un sport.
Pardon. On te remercie pour la promo de ce podcast.
Ouais, vraiment. Là, on va faire du clic, hein, Gilbert. Là, on va se régaler. Hein. Merci.
Non, mais je sais que ça me plaît. J'ai quand même le droit de donner mon avis. J'ai tellement de potes qui y jouent. Ils ont essayé
mais
de
Mais tu sais
gagner.
Ce qu'on va faire, Daniel. Tu vas venir dans Viva Padel et tu vas te confronter à nos consultants et on va débattre de ça parce que je pense qu'ils seront pas du tout d'accord avec toi. Les joueurs de l'équipe de France qui s'entraînent 4 heures par jour. Et je peux vous assurer.
Il y avait les mêmes qui s'entraînaient au squash il y a 20 ans.
Non, mais c'est un vrai sport très physique avec tu l'as dit.
J'ai pas dit que c'était pas physique, moi. Tu cours 3 mètres dans une cage, mais c'est physique, oui, c'est ça.
À tout à l'heure, Nico.
À tout à l'heure.
Alors, avant les 3 points, les gars, j'aimerais quand même que vous rappelez que c'est le week-end spécial Stéphanie.
Il y a le point des points à faire d'abord, c'est ça.
C'est pourquoi, Daniel?
Non.
Bah, parce que
Daniel, tu es pas au courant. Tu es le seul de pas être au courant.
Bah, bien sûr. Ah, vas-y, Stéphane, je te laisse faire cette annonce.
Alençon a éliminé le Havre en Coupe de France hier soir. Un match historique. Un match historique, une qualification historique, dans un match magnifique.
Tu étais?
Bien sûr, pas du tout tiré par les cheveux, une victoire magnifique. D'ailleurs, ça a été bien reconnu par Luc Elsner, l'entraîneur du Havre, un homme plein de...
Mathieu Bodmer était là?
Plein de classe, Mathieu Bodmer était là, qui a laissé la recette à Alençon, donc merci Mathieu. Il a offert un maillot du Havre au président d'Alençon, merci Mathieu.
Et t'en toujours pas pris comme dirigeant?
Mathieu qui avait joué à Alençon, contre Alençon quand il était... Moi j'ai vu jouer tout jeune Mathieu, avant qu'il devienne le footballeur.
Dans le championnat de Normandie.
Ouais, dans les ligues, dans les championnats de 15 ans entre Alençon et le Stade de...
Ils ont pas fait dans la dentelle alors?
Ah, ils ont été magnifiques, c'était vraiment une soirée extraordinaire. Et Amaury Tessier, Hakim El Amdaoui, Karim El Amdaoui.
Prochain tour c'est quand?
C'était tous les dents. Dans 3 semaines, et ce sera face à Pontivy, à Alençon. Pour aller en 32e, pour ce qui est un événement rare.
Dieu, un 32e à Alençon PSG. Ah, c'est fan. Ce serait fou.
PSG a joué à Alençon, Daniel, un match de préparation.
Très bien. Bon, ça me permet de glisser que le petit village de Reipertswiller, c'est aussi qualifié. Oui, village strasbourgeois.
On a
village
bien fait 20 magnifique. Minutes sur des sports mineurs pour ouvrir l'after.
À la Coupe de France, c'est du football.
Là, c'est pas mineur, Daniel. Une victoire d'Alençon en Coupe de France, ça
même si la Coupe de France, ça vaudra le coup qu'on s'y penche peut-être la semaine prochaine, il n'y a plus de diffuseurs. Donc la Coupe de France, tout le monde trouve ça génial.
Oui, on peut-être trouver quand
mais
même.
Mais personne veut la diffuser. Donc bon.
Mais quand tu assistes à une soirée blague à part comme celle à laquelle j'ai assisté hier à Alençon, c'est impossible qu'il n'y ait pas de diffuseur. C'est ça le foot, il est là. Le rapport entre
okay, le diffuseur. Et il ne faut pas se l'acheter pour nous dans l'after.
On devrait.
On fait une diff, on fait commenter.
Nos patrons des RMC devraient sortir le chéquier pour cette compétition.
Oui, mais en fait, la Coupe de France, c'est obligatoire.
Limite, on peut l'acheter nous là si personne n'en veut.
Ouais, ben il y a des chaînes d'enclair dans le groupe RMC.
Exact. Coupe de France sur RMC découverte.
Ah ouais, bien sûr.
Découverte la Coupe de France
sur Story.
Il y a eu des histoires tout au long du week-end. Il y a Orvault, le petit club d'Orvault qui a éliminé Laval. Il y a Fougères qui a éliminé Le Mans, le club de Fougères, le drapeau de Fougères. Il y a des histoires magnifiques. Cet après-midi, le club de notre correspondant en Normandie, Christophe Léquier, s'est qualifié. Et Vire. Ils vont jouer Caen. Il y aura Vire, Stade Malherbe de Caen, prochain tour. Donc c'est un match.
Le match Vire-Caen. Déjà, au niveau étymologique, c'est.
La Normandie est en feu quand même.
La Normandie est en feu. Exactement.
Très bien. Et Alonso a mis 3 buts à la meilleure défense de Ligue 2, quand même. Hein? Club de National 3. C'est pas une victoire tirée par les cheveux. Il y a eu des buts.
Et Gorgelin dans les buts, quand même.
C'était Gorgelin pour la séance de tir au but. Dieu merci.
Allez, c'est parti, la Ligue 1 avec les 3 points. On y va, jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, après ce Lyon-Lille, quels sont ces 3 points?
Le petit braquage lyonnais qui va leur faire du bien. Le point 2, c'est des Lillois supérieurs, supérieurs, c'est vrai, mal payés. Et c'est pas la première fois que ça leur arrive cette année. Mais je pense néanmoins qu'ils sont dans le top 3 des meilleures des équipes qui jouent le mieux dans ce championnat. Peut-être même top 2. Et le troisième point, à prendre dans les matchs du jour, entre la balade rennaise qui continue, la fête est finie à Lorient, je pense. Et que s'est-il passé d'autre dans cet après-midi? Je vais retenir ces deux matchs-là.
Très bien. Stéphane, tes 3 points.
Pour pas paraphraser Daniel. Moi, braquage, je dirais pas ça.
Non, je trouve pas que c'est un braquage.
Petit. Ouais, c'est un match, deux équipes qui pouvaient se regarder dans les yeux.
Petit,
qui
avaient à peu près, c'est pas avec le même niveau. Que tu fais sauter la porte à coup de pompe.
Et alors, il y a un élément clé pour moi sur lequel on peut peut-être insister, c'est de l'importance de lever la tête, du regard dans le football. Voilà, on a vu, à Lille, un Timothy Weah qui a fait des différences énormes et qui n'a jamais levé la tête pour trouver un partenaire. Et puis il y a eu un Taliafico qu'on a peu vu finalement sur le plan offensif, mais qui a eu la bonne idée de lever la tête au moment où il le fallait et qui a trouvé la casette. Et peut-être que la différence, elle se fait là. Deuxièmement, oui, c'est vrai, Lille est une équipe qui monte en puissance. Et je trouve que le week-end nous enseigne une chose importante à nous, observateurs du foot, c'est de ne pas céder à la tentation de l'analyse liée seulement au résultat. Lorient, Marseille, évidemment, à Strasbourg. Lorient, cet après-midi, contre Nice, qui aurait pu connaître un autre sort. Lille, ce soir, voilà. Donc, il y a des contenus dont ils font évidemment tenir compte. Contenus qui Paris doivent, aussi contre 3, on pourrait.
Ils doivent faire plaisir aux entraîneurs, mais qui, d'un point de vue comptable, effectivement, rapportent moins.
Voilà. Et je signale que Jean-Luc Roy a mis 10 minutes à ranger toutes ses feuilles.
Ah, bah, il a tellement de notes.
C'est un truc de fou.
C'est un professionnel.
Ah, vraiment, il y a de la note.
Hein. Et puis, c'est classé par ordre.
Il peut rien lui échapper.
Ah, bravo Jean-Luc.
Et le troisième point, évidemment,
Et pour charger son ordi, il vient avec la rallonge de la maison, celle de la tondeuse à gazon. C'est pas la petite rallonge. Hein.
Salut Jean-Luc.
Et puis le troisième point, c'est un clin d'œil, mais tout cela, évidemment, quelle que fût la beauté de ce week-end de Ligue 1, tout cela ne vaut pas la victoire d'Alençon en Coupe de France sur le Havre.
Magnifique. Bon, oui,
je disais tout à l'heure, c'est passé crack.
Oui, alors, voilà, détaillons.
Bon, effectivement, je pense que les trois quarts du match ont été dans le jeu bien plus intéressant du côté lillois, que les occasions avant le but de la Cazette, en plus, étaient très nettement du côté de Lille. Je ne parle même pas de la première période et de la barre transversale de Jonathan David, mais c'est même dans les minutes qu'ont précédé le but où tu pouvais, si tu avais l'esprit un peu mal tourné, te dire « ils vont finir par le payer ». J'ai horreur de me dire ça, parce que c'est pas une surprise pour ceux qui écoutent l'After depuis des années. Je ne supporte pas quand une équipe gagne comme Lyon a gagné ce soir. Je veux que l'équipe qui mérite gagne. C'est un truc avec lequel j'ai du mal. J'ai beau savoir que dans le foot ça arrive, j'ai beau savoir que ça arrive même souvent, que le foot n'est pas toujours méritocratique. Néanmoins, j'aime quand une équipe propose ce que Lille propose. Notamment dans cette première période, ce mouvement permanent, la disponibilité des joueurs, le projet, ce pressing haut, la volonté d'offrir quelque chose aux gens qui viennent au stade. Je veux que cette équipe-là gagne, même si, évidemment, je le répète, ça n'est pas toujours le cas. Lyon, dans la deuxième période, a mieux joué, mais quand même, c'est encore Lille qui avait les occasions. Ils ont mis, on va dire, plus d'impact, les Lyonnais, qu'un peu comme si Blanc avait constaté que bon les gars, dans le jeu, on va pas y arriver. On a beaucoup trop de retard sur eux. Ouais. Ils sont beaucoup
trop forts.
Ils ont
la même idée de jeu, mais il y en a une qui est beaucoup plus en avance.
Ils sont beaucoup trop forts pour nous. Donc essayez au moins de leur rentrer un peu dans l'art. Essayez au moins de mettre un peu d'impact et on sait jamais ça peut tourner. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je parle de petits braquages et pas de gros braquages comme celui par exemple de Lens au Vélodrome la semaine dernière, qui était à mon avis d'un degré supérieur en termes de braquage. Donc il y a quand même 2-3 félicitations à adresser à l'OL, mais c'est
et notamment à Laurent Blanc par ses changements qui ont pesé sur le match.
Ouais. Je sais pas si les changements ont réellement pesé.
Ah si, les entrées de Le Penant, de Toko, de
Adélaïde, l'extérieur du pied sur le but, il est magnifique. Il y a un geste technique.
Les félicitations principales, je les adresserai quand même à Anthony Lopez, qui est l'homme qui a tenu Lyon en vie dans ce match, parce que vraiment, notamment sur la frappe de de David. Celui, l'homonyme de l'autre.
Angel Gomez.
Voilà. Je pense que son plus bel arrêt, c'est celui-là. Vraiment, là, sur la frappe qui allait sous la barre. Bon, Anthony Lopez a tenu Lyon en vie. La Casette, de l'autre côté, a mis le but qu'il fallait. Tant mieux pour l'OL. Je ne sais pas si ça leur fera du bien. En tout cas, je crois que l'objectif est de prendre des points avant la grosse, grosse trêve pour peut-être reconstruire un jeu. Il peut y avoir une base intéressante pour l'OL.
Ça leur fera forcément du bien, Nel, parce que précisément, ils sont dans une période où ils peuvent de toute façon pas, on passe pas de la nuit à la lumière, donc c'est pas possible. Quel que soit le talent de l'entraîneur, l'effectif est pas encore complètement au point par rapport à ce qu'ils souhaitent. Mais c'est évidemment 3 points, ça fait plus que du bien. T'as vu comment c'est célébré à la fin du match? Les Lyonnais,
ils savent que c'est un bon résultat. Ils ont battu une très
et puis ils ont Marseille la semaine prochaine, dans la Lyon-Marseille. Donc c'était fallait surtout pas se louper à domicile.
Donc un match qui va être un peu drama du coup dimanche prochain, parce qu'entre Marseille qui va pas bien du tout, qui va peut-être connaître une grosse déception cette semaine.
Ah, ou peut-être une grande joie, on leur souhaite.
Oui, bien sûr, mais ça peut être dimanche prochain quand même un OMOL. Déjà à la base, c'est un peu chaud. Dimanche prochain, ça va être bien tendu.
Fini au rugby, le score final, Nico, entre Bordeaux.
Que ça a été chaud. Ça a été chaud entre Bordeaux et Toulon. Victoire des Bordelais d'un petit point grâce à une pénalité de Zach Holmes à 5 minutes de la fin. Mais les Toulonnais avaient un dernier ballon pour essayer d'aller gratter une pénalité. Ils se sont fait bien défendre dans un rug. Bordeaux sauve.
Nico, on a le score. Désolé, je te laisse, mais on a Anthony Lopez
pas
en soucis, direct.
Pas de soucis, bonne soirée.
Salut Nico. Allez, Anthony Lopez en direct.
Et voilà, il fallait retourner en deuxième période avec de nouvelles intentions et d'aller marquer ce but et ne pas manquer, c'est ce qui a été fait. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? Que vous dit le coach?
Ah, le coach, il nous dit de tout simplement de garder confiance. On tombe contre une équipe de Lille qui est en pleine bourre et qui fait du jeu, qui aime jouer, tout simplement. On a pas su répondre présent sur cette première période, mais ouais, j'ai envie surtout de souligner la grosse force de caractère du groupe qui a montré un tout autre visage en deuxième mi-temps et qui nous a permis d'aller chercher les 3 points parce qu'on en a besoin. Le coach le souligne tous les jours qu'on a une urgence de points et voilà, le fait de gagner dans la douleur ou pas, c'est peu importe. C'est de voir les 3 points là, à l'issue du match.
Et comment vous l'avez construit ce mental là, cet état d'esprit?
Non, je pense que son discours il a fait beaucoup, le fait qu'il arrive totalement frais et qu'il remette tout le monde un peu d'aplomb, surtout mentalement. Ça a été un gros travail de sa part. Il a trouvé les mots qu'il faut pour remettre un peu tout le monde d'aplomb. C'est ce qui a été fait. Voilà, on aurait aimé faire 9 sur 9 depuis son arrivée. C'est 6 sur 9, c'est plutôt correct sur ces 3 matchs. Mais voilà, on sait qu'on doit aller chercher des résultats aussi à l'extérieur et le match de dimanche soir reste encore ultra important pour nous.
Il y a un gros tournant dans ce match, c'est ton arrêt à l'heure de jeu.
Ouais, on est mis en difficulté sur notre droite. Il arrive à trouver un centre au sol, un très bon centre au sol qui permet de prendre la défense à contre-pied. Après, il fait le bon geste, il fait un très beau contrôle qui arrive à se mettre sur son pied droit et de l'enrouler. Voilà, moi j'étais sur mes appuis. On a pas mal travaillé ces choses-là aussi durant l'entraînement. J'étais prêt et c'est ce qu'on me demande de faire, d'être décisif. J'ai réussi à l'être ce soir, il faut que ça continue. Mais voilà, surtout mettre en avant le groupe parce que voilà, ça c'est des détails qui ont certes son importance, mais voilà, c'est mon boulot, c'est tout.
Mais celui-ci, il est quand même exceptionnel, c'est
bien au-dessus.
Anthony Lopez, voilà, qui est en direct avec nous pour.
Il a bien fait son boulot.
Pour réagir. Non, mais on reparlera de lui un peu plus tard parce que il est quand même sur, on va dire, une saison et demie de dingue. Hein. Je veux dire, le Anthony Lopez, tu sais, il y a 2 ans où les sorties, tout ça, c'est fini en fait. Parfois, on lui reproche encore, mais
je ne sais pas si c'est fini.
Parce qu'il
a déjà eu des phases dans sa carrière où il a été. Enfin, les arrêts qu'on lui a fait.
Il y a deux ans. C'était il y a 2 ans les histoires de sortie.
Oui, d'accord, mais les arrêts qu'il fait ce soir.
De ça, c'est un gardien régulier. Qui sont des points de discussion, mais
c'est ça.
Parfois, on lui reproche de trop plonger. Bon,
il a quand même une très très belle régularité.
Les arrêts qu'il a fait ce soir, on lui a déjà vu faire dans sa carrière. Depuis qu'il est titulaire à Lyon, on a déjà vu ce genre de choses. Son problème à lui, c'est que ça a toujours été entaché par des conneries un petit peu inexplicables, comme si d'un coup il y avait un boulon qui sautait.